C'est la bonne originale, soyez les bienvenus avec Elina Kabamounadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Salut.
Tom Lila.
Salut.
Marina Rollman. Tanguy Pastiros. On t'entend pas, Marina? Ah, Marina, elle n'a pas de micro, ma
ah, bah,
voilà.
Ah, bah,
bonjour Marina. Tout à l'heure, Tanguy Pastiro et notre invité Kian aujourd'hui.
Ah, oui.
Bonjour.
Bienvenue Kian.
Bah merci, merci.
Bienvenue, bienvenue. Ravi de vous accueillir. On va évoquer évidemment votre carrière, vos spectacles, la, je crois, la captation même du dernier spectacle pour lequel vous étiez venu ici à ce micro. Évoquer également le nouveau spectacle que vous êtes en train de roder, mais surtout. Surtout, on a un gros problème, Leïla, moi, je sais pas, Tom,
bah, si les autres aussi.
Ouais,
si,
non,
si,
mais je sais pas si vous avez eu le temps de voir le bah, documentaire.
Si,
Marina aussi, tu as eu le temps?
Je n'ai pas regardé le documentaire,
c'est
mais
honnête.
Je connaissais les dangers
du
de
sucre.
La chose.
Oui. Ouais, exactement. Sugarland, c'est ce premier long métrage, un réalisateur australien qui s'appelle Damon Gammon. Gammon, pardon, ou Gammon, je sais pas comment
Gammon,
il faut.
Ouais.
Gammon, voilà. Qui sortira en salle ce 24 janvier, mercredi prochain. Le sucre est partout. Vous le doublez, vous commentez. Ce doc, vous êtes présent pour un mec qui a fait bref. Vous êtes là sur un long, mais tout le long. Et ce documentaire est d'abord c'est comme Super Size Me. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce doc où quelqu'un avait décidé de manger matin, midi et soir dans les fast-food en disant je vais voir les bienfaits ou les méfaits en tout cas du fast-food.
Bah c'est ma vie. Oh, hein,
c'est bien coup,
et il avait failli mourir. Tellement ouais. Il avait grossi, triplé en très peu de temps. Bah lui, il a fait pareil, c'est ça ?
Bah il a fait pareil, mais il a fait à la différence. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ce documentaire Super Size Me a créé ce genre de documentaire aujourd'hui. Mais là, il est allé encore plus loin. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans les fast-food manger pendant 40 jours dans un fast-food. Il a juste dit.
Il a mangé sain.
Il a mangé sain, en
c'est
fait.
Ça.
Il allait dans les supermarchés, il a dit je vais acheter que les produits que les supermarchés nous proposent, c'est-à-dire les produits qui sont transformés par l'industrie. Il va acheter des choses. Il n'achète pas de soda, pas de sucreries, pas de glace.
Il va pas au McDo ni rien du tout. Il prend du light.
Ouais, il prend du light. Ouais,
prend du light. Il prend des biscuits. Il prend du chocolat.
Il respecte une
pas
règle.
Pas de sucreries, pas bah, outrage. Non, mais même pas chocolat. Je me demande si
non, il prend pas de chocolat.
Il prend pas de chocolat.
Il respecte une règle, c'est-à-dire il doit consommer par jour l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre. C'est la moyenne australienne.
Australienne, ouais.
Waouh!
Déjà,
ça paraît fou.
Pensez
hein,
à 40
fou.
Cuillères à café que vous mettez dans un saladier, je ne sais pas. Et dites-vous que vous allez les ingérer tous les jours, mais sans manger de barres chocolatées, de glace, de cochonneries, quoi, on va le dire.
Ce que l'on appelle des cochonneries et qu'on adore parce que c'est bon.
Ça fait du bien de se faire plaisir.
Parce
aussi.
Que c'est un bon bec, parce que c'est un chewing-gum, parce que c'est une glace, parce que c'est
et
machin.
Et on comprend pourquoi
lui,
ça
prend
fait
pas
du bien.
Du tout.
Et on comprend aussi pourquoi ça fait du bien.
Il se fait suivre par un médecin, parce que ça c'est très important.
Il y a 4 médecins même qui le suivent dans tous les sens.
Une diététicienne, totale, suivi médical.
Et il continue le sport.
Et
il continue le sport, il continue sa routine sportive, il continue ses habitudes. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait une alimentation à la base juste de, avec sa femme. Il cuisinait juste des produits, donc juste des matières premières, quoi. Des légumes, il mangeait de la viande, il mangeait de tout.
Du poisson.
Mais rien de qui vienne de
Mais c'est eux qui le cuisinaient, voilà. Ils n'achetaient pas de plat tout fait.
Non, jamais.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe?
Mais là, en fait, son corps part complètement en sucette.
Non, on avait dit pas de sucette.
Et c'est marrant parce que Daniel Morin n'est pas là. Et peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions pour Daniel.
Il va arriver, on va en parler avec lui.
Non, mais là, ça devient un vrai choc. Déjà, il commence par un premier petit déjeuner. Il s'est mis ce but de 40 cuillères de sucre par jour. Et il arrive au petit déjeuner, il prend un bol. Il prend des cornflakes qu'on voit dans le truc qu'on consomme tous, avec un petit peu de lait. Il commence à boire un jus de fruits et il compte qu'il est déjà à 12 cuillères, 14 cuillères à café.
20, quasiment 20.
À quasiment 20
quasiment
avec le jus,
moitié,
parce que le jus, c'est 9 cuillères de sucre.
Et donc, il se retrouve à la moitié de sa consommation de sucre en un petit déjeuner qui était censé être un petit déjeuner sain, équilibré, céréales, lait, jus de fruits. Voilà,
c'est ce qu'on nous vend depuis qu'on est petit, des céréales, du lait, un jus de fruits, éventuellement un bout de pain. Enfin, on a tous grandi, je crois,
mais
avec un petit
ouais,
déjeuner
ouais.
comme ça, qu'on pense être sain, du lait pour les os, des vitamines avec le jus. Non, mais voilà. Et en fait, on se rend compte que
le
c'est
lait,
juste une bombe.
Les produits laitiers, c'est notre ami pour la santé,
voilà,
pour la vie.
Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait une pub qui disait le sucre, c'est la vie.
Ah oui, le sucre, c'est la vie.
Avec une petite fée qui disait c'est chambé, c'est génial. Ouais, si la petite fée elle le dit, c'est que ça n'a pas.
Mais la petite fée, c'est un dealer à Stalingrad, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un dealer à Stalingrad.
C'est ce qui est même carrément dit dans le doc. C'est que le sucre est plus, on est plus addict au sucre qu'à la coke. Si, paraît, si on prend les deux, une expérience a été faite avec un rat de laboratoire. Ah oui, donc c'est lui qui va prendre aujourd'hui.
Les absents, tout j'entends.
Ok, j'ai bien fait de venir alors. Et il y a des images qui sont pas les plus sexy possibles. C'est-à-dire, on le voit en slip en début de doc, et au fur et à mesure, il y a le bide qui pousse, il y a les poignets qui sortent. C'est la valise à roulette quoi, qui se met en route.
Le moral aussi en chute. Il y a plein de choses. Enfin, tout son corps, vraiment. Pas en vrille.
C'est ça, il déprime et il
prend
fait
10 cm de tour de taille. 10 cm.
En combien de temps ?
En l'expérience, il la tient quoi ?
En 60 jours, je crois.
C'est ça ?
Ah oui.
Non, mais c'est rien du tout.
2 mois.
Ça va à une vitesse phénoménale. Et il fait tout ça parce que sa femme est enceinte et il veut, entre guillemets, une hygiène ou un monde meilleur pour son enfant.
Ouais,
et savoir comment l'accueillir et comment bien l'éduquer. Ce doc, je vous le dis, moi, depuis que je l'ai vu, je regarde toutes les étiquettes. Maintenant,
surtout, on apprend à les lire. On apprend à les lire. Ouais. Par exemple, là, il y a un truc qui est génial. Après, encore une fois, il n'y a pas un truc. Parce que dans les documentaires comme ça, il y a un truc un peu moralisateur, culpabilisant. Il n'y a pas avec ça, avec ce documentaire-là. Il est surtout drôle, on passe un bon moment et surtout on apprend des choses.
Ouais.
Et il nous apprend une chose notamment qui, je pense, peut être vraiment utile pour tout le monde. Et on peut le dire à la radio parce que c'est un média et profitons-en. C'est, il dit, on ne sait pas ce que c'est 4 grammes de sucre. Quand on voit une étiquette, on se dit, il y a 8 grammes de sucre, c'est quoi? Par exemple, on mange une petite barre chocolatée, vous savez, les petites barres chocolatées qu'on aime à Noël et trucs comme ça. On se dit, il y a 8 grammes de sucre dans une portion. 8 grammes de sucre, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai pas de pèse-aliments chez moi. J'en ai parce que je fais de la pâtisserie, mais on va dire que j'en ai pas.
On va dire que t'es un mec normal.
On va dire que voilà, j'en ai pas. Et par exemple, 8 grammes de sucre, c'est 2 cuillères à café de sucre. Donc quand on mange une barre chocolatée, même toute petite comme ça, c'est comme si on en ingérait 2 cuillères à café de sucre. Et on le ferait pas, je pense.
Ouais.
Et donc ce documentaire-là, il est bien parce qu'il rétablit le choix, en fait. Le côté genre, je sais ce que j'ingère, je sais ce que je mange. Et maintenant que je le sais, est-ce que je vais en manger 12 ou 15 des barres chocolatées? Et moi, ça m'a freiné clairement psychologiquement.
Et le choc, à mon sens, c'est que même si on dit je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de bonbons, je ne mange pas de, entre guillemets, ce qu'on appelle des saloperies que l'on aime. Je suis premier à les aimer aussi, mais pas de dessert, pas de sucre, non, pas de sucre. Même si on dit ça, on en bouffe des tonnes de sucre.
Exactement.
Dans tous ces produits-là.
À son insu. Et le problème, c'est juste de rétablir le choix et le libre arbitre.
Et le vrai problème, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de sucre, surtout ?
Alors, après, ce qu'il raconte dans le documentaire, il le raconte très très bien, c'est que quand on était des hommes des cavernes, on avait besoin d'aller, dès qu'on avait le sucre étape d'agence, on en a besoin pour le cerveau, pour nos fonctions vitales. Mais il y a un truc qu'il raconte qui est super, c'est quand on était des hommes préhistoriques, dès qu'on avait du sucre, par exemple, on trouvait des baies, c'était très rare, c'était au printemps, en été, on trouvait des framboises, un framboisier, on mangeait des baies, et notre cerveau nous envoyait de la dopamine pour nous dire « ça c'est bien !» Ça, c'est bien, mon pote. Mange ça. Et du coup, on avait une sorte de récompense à manger du sucre. Et notre civilisation a évolué beaucoup plus que notre chimie intérieure et notre corps.
C'est
et
même
gène.
Une récompense qui est comparée au plaisir sexuel.
C'est
qui
ça, c'est la dopamine. C'est la, ouais. C'est la drogue du c'est bien. C'est bien ce que tu fais, ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu vois là, la framboise. Vas-y. C'est bien. Donc, ça influence notre comportement. On va vers la framboise, on la mange et en plus, on est récompensé. C'est vraiment chimique. C'est totalement. Donc, on est déjà, notre libre arbitre est biaisé. On a toujours ce réflexe de voir quelque chose de sucré. Donc ça devient extrêmement sexy dans notre tête, on se dit waouh, faut que je mange ça. Mais par contre, une baie tous les mois de juillet. Là, c'est tous les jours, on peut manger des barres, manger des
c'est plus, une récompense. On banalise ce plaisir ou cette récompense. Et puis
exactement.
Surtout, on fausse l'information. Encore une fois, on est en permanence en état soi-disant de bien-être, de bonheur. Et il y a la déprime qui arrive après. C'est-à-dire
l'index glycémique, à un moment, il chute.
C'est ça.
Voilà. Et donc, on se retrouve avec une sorte de caractère qui oscille, et on le voit dans le cas des enfants, parce que c'est aussi ça qui est préoccupant, c'est comment ils se concentrent à l'école, on en arrive à avoir parfois des comportements violents, et ils font le test à partir du moment où on donne du sucre à un gamin, il va être super excité, intenable, après il va sombrer, il va être sans doute capricieux,
déprimé peut-être,
voilà, chiant, en gros, et comment il fait pour écouter, à l'école, quoi, pour être attentif, pour...
Voilà, maman, tu sais tout, voilà, pourquoi j'ai galéré à l'école, maman, tu sais tout, voilà, j'ai galéré.
J'ai mangé trop de sucre.
Après, moi, j'étais un enfant sucré. J'ai beaucoup mangé de sucre quand j'étais gamin. J'ai vraiment, ma tante me disait, tu veux du thé dans ton sucre. C'était vraiment l'expression. On me résumait comme ça. Et puis, je pense que ça peut justement rétablir. Le documentaire aide à rétablir un peu le côté genre, arrêtons un peu
Alors, moi, c'est folie, très important. Vous avez raison de le préciser tout à l'heure. C'est drôle. On apprend des tonnes de trucs. Il n'y a pas le côté culpabilisant. Il n'y a pas le côté, on va tous mourir. Il n'y a rien de flippant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va voyager. Il va partir au paradis du sucre, c'est-à-dire aux États-Unis. Il va rencontrer aussi des spécialistes et même des chercheurs qui ont été
financés,
carrément payés, oui, c'est ça, par l'industrie du sucre pour faire des études en disant le sucre c'est bon. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Et qui assume presque devant la caméra.
Le mec dit non, j'ai totale liberté d'expression.
Et je bois un coca.
Exactement, en même temps. Non, c'est ça qui est assez... C'est assez qui est...
Il y a des conférences entières.
Mais les Américains sont à 80 cuillères de sucre par jour. 80 cuillères de sucre.
Et les Français, on sait ?
Non, je pense qu'on est encore dans une bulle. On est quand même dans le pays du goût, le pays de la gastronomie. On a des cantines qui font un gros travail de diététique. Ouais. On a vraiment, je pense qu'on a encore une bulle protectrice, mais vous savez comme moi que les comportements s'exportent et que de plus en plus, on commence à les... Enfin, c'est une influence, quoi.
Mais alors, l'autre problème, c'est aussi financièrement. C'est-à-dire qu'on est là en bobo parisien en train de dire faut manger bio, faut acheter ses propres fruits et légumes, faites vous-même la cuisine, ainsi de suite. On n'a pas toujours... le bio devient de moins cher que ce qu'il était avant. On n'a pas toujours les moyens d'avoir ce rythme-là. Pas toujours les moyens ni le temps de faire la cuisine. Et c'est vrai que, vite fait, une pizza à décongeler dans le micro-ondes, ça reste quand même une bonne solution. Or, il veut montrer aussi que c'est pas un problème financier que de pouvoir faire attention à sa nourriture.
Ah ouais, exactement. Il dépense pas plus cher. Après, il y a un côté. Je me sens privilégié parce que quand je vois des comportements comme ça, moi j'ai été éduqué vraiment. Mes premiers légumes, je les ai coupés à 7 ans, donc je vois ce que c'est. J'ai pas peur en fait. Je me rappelle, j'avais vécu avec quelqu'un. Non mais parce qu'il y a un côté, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il y a un côté genre un légume. Qu'est-ce que c'est que cette planète ?
J'avais plein de vannes, mais non.
Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Non, mais il y a ce côté. Moi, j'ai vite démocratisé la cuisine et ça fait partie de moi. Et je trouve ça, il y a un côté un peu créatif à cuisiner. Et je pense qu'il y a des gens, il y a une éducation à faire et ça passe juste par l'éducation.
Il n'y a pas de cours de cuisine déjà à l'école primaire, peut-être qu'on devrait faire un truc comme ça, peut-être.
Si,
il y en a des ateliers.
Il y a des ateliers, je sais pas si ça s'appelle ça.
C'est comme le sport, si on n'a pas le temps pour les maths, on le trappe, on le fera la semaine
des
prochaine.
Classes, quoi, non, mais des classes vertes, des trucs comme ça, où on t'apprend à faire, soit à faire du pain, soit en effet à cuisiner ou à préparer un plat. Mais il y a plein d'enfants qui ne savent même pas d'où viennent les frites. C'est-à-dire, ils mangent des frites, mais ils savent même pas
la
gueule que peut avoir une pomme de terre juste avant. Qu'est-ce que t'as dit ?
J'ai dit de l'arbre à frites.
C'est ça, évidemment.
Le fritier.
Le fameux, voilà, manger des frites. nous parlons tout à l'heure avec Stéphane Aurel, elle est journaliste d'investigation et elle nous parlera de tout le problème des perturbateurs endocriniens et elle a réalisé des docs sur l'invasion et l'endocrinement que l'on peut subir dans nos sociétés aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais savoir, Tom Villa, vous qui êtes un ami intime de Kian, si vous avez compris pourquoi vraiment il était là.
Bah oui, donc on l'a dit pour Sugarland. Voilà. Et,
qui sort
la semaine prochaine. Ouais. Moi je trouve ça extraordinaire de vouloir éveiller les consciences et nous faire manger plus sainement, mais le bordel que c'est maintenant pour faire ses courses. Non mais pour réussir à comprendre ce que t'achètes, ça demande une préparation. Moi, avant j'allais faire mes courses un peu naïvement, tu vois, hop, je voulais du beurre, j'achetais du beurre, je voulais du jambon, j'achetais du jambon, mais avec tous les labels, maintenant t'as le sans gluten, sans huile de palme, sans lactose, sans glyphosate, sans sucre, sans aspartame, commerce équitable, ISO 65, bio, vraiment bio, bio de la ferme, au cul de la poule. Non mais c'est bien de savoir ce qu'il y a dans nos produits, mais à ce rythme-là, dans 2 ans, on va bouffer que de l'eau. Et encore, parce que l'eau, c'est vendu dans quoi ? Dans des bouteilles en plastique. Et le plastique, ça pollue. Non, j'ai été chez Bio C'est Bon, là, à côté de chez moi. Vous connaissez Bio C'est Bon ou quoi ?
Ouais.
C'est ces magasins
bio. Bobo Parigo, oui, on sait.
Non, mais il y a une petite boutique bio à côté de chez moi. Et ouais. Voilà, c'est magasins où ils te lavent pas les fruits et légumes. Tu sais, tu les achètes avec de la terre dessus, mais c'est pratique parce que, comme pour les transporter, c'est des sachets en papier. Tu sais, c'est fin, on dirait du PQ. Tu sors du magasin, le sac il craque, les patates elles tombent par terre et on voit pas qu'elles sont crades, elles le sont déjà. Donc Bio C'est Bon, mais putain c'est cher. J'ai reçu des potes à bouffer la semaine dernière. J'ai dit venez que pour le dessert parce que sinon je suis fiché Banque de France. Non mais c'est la merde le sans gluten. Regardez le sans gluten par exemple. Moi j'étais faire mes courses hier et je regardais les étiquettes, j'ai trouvé du jambon cru italien sans gluten. Autant les gâteaux sans gluten, je peux comprendre, le pain, mais ça veut dire quoi, le jambon sans gluten ?
Le
cochon aussi, il fait un régime. Ça veut dire que moi, si je mange sans gluten, le porc aussi doit manger sans gluten. Mais c'est pas sympa, déjà qu'il va se faire tuer et bouffer, mais si en plus on lui impose un régime spécial... Le truc, il se roule dans la mer toute la journée, mais il mange pas de gluten. Donc ça permet de vendre la tranche 30% de plus cher. Moi, je suis prêt à payer 30% plus cher pour un cochon sans gluten, mais à ce moment-là,
Je veux un selfie de mon cochon sur ma boîte mail. Oui, souris. Je veux que pour le prix, vous le régaliez, le cochon.
Un jacuzzi.
Tu lui mets une tomate burrata en entrée, un tagine de légumes en plat et en dessert une salade de fruits. Le cochon aussi, il doit kiffer. Non, sans déconner, c'est dans tous les rayons pareil. Tiens, par exemple, vous voulez manger une compote de pommes. En sachant exactement ce qu'il y a dedans, bah, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez une semaine de RTT à poser, ça peut être pratique. Entre sans sucre ajouté, réduit en sucre, avec que les sucres du fruit, faible teneur en sucre et au sucre naturel, c'est plus un rayon, c'est un dictionnaire des synonymes. Moi, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Mais à la limite, ça me dérange pas. Mais au moins, mettez un smiley sur l'emballage. Je veux un pouce en l'air. Je veux un smiley clin d'œil longue tirée. Un smiley bisou, un smiley kéka, mais je veux qu'il y ait plus de déconne. En tout cas, c'est génial de faire un documentaire là-dessus. Juste un petit conseil pour nos auditeurs. Et il y a des jeunes qui sont actuellement avec nous en studio. Si vous avez des gamins, dites-leur bien qu'à l'avenir, c'est pas parler anglais, espagnol ou chinois, l'avenir, c'est la physique chimie. Parce que pour lire les étiquettes, si t'as pas 14 de moyenne, tu vas galérer toute
ta vie. Et des bons yeux. Et des bons yeux en plus. Merci, Tamila.
La bande originale. Maggie.
Ouais, il y a un truc qui a changé. Alors, à part le fait, enfin, qui va vous changer. Une fois que vous aurez vu ce doc Sugarland, il faut absolument que vous le voyez, ce doc, parce que il faut qu'on arrête d'être un tout petit peu des moutons à suivre bêtement ce que l'industrie et le commerce nous pousse à. Parce que tout ça, c'est pour faire du blé, beaucoup de blé ou de la canne à sucre, beaucoup de canne à sucre. Parce qu'il y a toute une industrie derrière qui voit un intérêt à nous rendre accros. Une fois qu'on a atteint un certain seuil, on a l'impression, de consommation de sucre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est déjà l'image de ce chercheur, ce spécialiste chimiste, j'en sais rien, qui découvre l'apogée gustative. C'est-à-dire que on a envie de sucre jusqu'à un certain stade orgasmique.
On adore le produit.
C'est ça.
On adore le produit jusqu'à un certain stade. Et dès qu'on rajoute trop de sucre, après, on déteste le produit.
On est écœuré.
Ouais. Ils dépensent des millions de dollars pour faire ce genre de recherche, d'études. C'est complètement dingue.
Mais parce que ça rapporte des millions,
et
oui. C'est ça.
Et il fait un parallèle assez intéressant, l'auteur de ce doc. Et il explique que si, vu le nombre de décès que le sucre engendre par an, c'est...
Et de maladies cardiovasculaires.
Et de maladies, et ce que ça coûte aux États, parce qu'il faut ensuite soigner si on pense à la sécurité sociale.
Il est dit dans le doc d'ailleurs qu'il y a toujours une guerre entre les graisses et le sucre pour savoir à qui était la faute de ce genre de maladie. Donc tu disais, oui, s'ils dépensent son argent.
Si on faisait juste le total du nombre de personnes qui décèdent par an à cause du sucre, et si on imagine que ce nombre de personnes étaient tuées par des intégristes, par des fanatiques, on aurait déjà mis tous les moyens en place pour éradiquer cette armée de terroristes. Qu'est-ce qu'on fait face à l'industrie agroalimentaire ? Rien, on laisse les gens aller à la boucherie en fait.
Parce qu'il y a un vrai lobby. Ils financent, ils participent, sans doute ils donnent des pots de vin, ils font de la communication, comme vous le disiez tout à l'heure, très, très ludique, très joyeuse. C'est connoté toujours autour de Noël, Pâques, manger des chocolats, les bonbons.
La famille.
Voilà, c'est ça. C'est très vicieux. Hein.
Ah ben c'est vicieux. En plus, pour aller dans ce sens-là, après la suite du documentaire, j'ai commencé un régime sans sucre. C'est-à-dire, j'ai même pas fait un régime, parce que le mot régime est un peu effrayant, j'ai décidé d'arrêter de manger du sucre.
Sans sucre, ouais.
De transformer. J'ai fait comme le gars, mais j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai pas pris du sucre, j'ai dit on arrête tout. Et j'ai fait ça pendant 20 jours et j'ai juste mangé des fruits, j'ai pas mangé de smoothie parce que j'ai pas sur-sucré mon système. J'avais acheté des cornflakes, je m'en rappelle très bien. C'était des trucs un peu, vous savez, avec des gens en forme qui sautent en l'air.
C'est formidable pour toi.
C'est méga sucré.
Spécial voilà. Cas où je pas trouvé.
Ou des trucs comme ça, des trucs où les gens ils font du yoga visiblement, ils sont heureux. Ouais. Et donc je l'ai pas mangé, je l'ai mis dans mon placard et je me suis dit j'arrête le sucre pendant 20 jours. Et j'ai eu ce paquet de cornflakes est devenu une borne wifi de tentation. Vraiment, je le sentais qu'il était là. J'avais envie de le manger. Je me voyais me lever, me faire un bol vite fait, croquer dedans. J'avais vraiment des vraies pulsions de sucre, quoi. Que ça m'obsédait. Ça a duré 6 jours.
Comme si vous étiez en manque, quoi.
Ouais, j'ai vraiment eu ça. Mon corps me disait, va manger ça. Ça, j'ai envie, ça. Vas-y. Et donc, j'ai vraiment vu ce comportement dans ma tête. Ça a duré 5-6 jours, ça s'est estompé au bout du 10e jour. Après, j'avais plus ça. J'avais des baisses j'avais des fatigues. J'avais un peu des fatigues, genre, parce que je jouais, j'étais en tournée, donc j'avais des fatigues un peu.
Et vous continuez le sport ou pas?
Ouais, je continue le sport, mais en fait, c'est une illusion, c'est une fatigue mentale, c'est pas une fatigue physique. Donc, j'ai continué, et après, au bout de 20 jours, j'ai arrêté, je me suis dit, bon, maintenant, on va reprendre un truc, j'ai pris un tiramisu en dessert à un moment donné, et c'était trop sucré, c'était vraiment trop, j'ai pas pu le manger. J'ai eu cette sensation de, c'est trop, too much. Et surtout, quand je passe devant des distributeurs de sucre et tout, moi, je me rappelle quand je prenais le train, petit Kit Kat. Toujours, je sais pas pourquoi, je prends l'avion.
C'est une tradition.
Parce que c'est dans le mode d'emploi du voyage en train. Il est dit, tu prendras un Kit Kat.
Non, mais il y a un côté petit chocolat pendant qu'on voyage, c'est agréable. Et je voyais ça, je me disais, mais pourquoi j'en prendrais un? En fait, je n'avais pas la même vision du produit, parce que c'est un produit. Et je me suis dit, waouh, ça a changé ma vision du truc. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, je mange pas de sucre, parce que je me fais plaisir, mais je suis conscient de quand je mange du sucre et quand je n'en mange pas. Et c'est ça la vraie différence. Ouais. Je sais que je me suis fait un Five Guys il y a un mois, je me suis fait un Five Guys, c'est des hamburgers avec des frites, tout ça et tout. Je sais que ce que je mange, c'est pas incroyablement bon pour mon système, mais je sais que c'est bon pour moi. Psychologiquement, c'est bon, ça me fait du bien, j'aime bien. Mais je suis au courant. Et je suis que, en ce moment-là, je suis en train de faire un écart et je suis content de mon écart. Je dis, bah voilà, c'est cool, c'est kiffant. Par contre, je sais quand je mange du sucre et je sais quand je m'en mange pas. Donc j'ai un peu rétabli la balance et rétabli mon goût. Et voilà. Mais par contre, c'est vicieux parce qu'on peut vite retomber dans le.
Non, mais là, vous avez raison, il faut juste savoir ce que l'on fait et le contrôler et pas être manipulé.
Pas contre
baladé.
Le plaisir. Ouais. Encore une fois, le plaisir est super. On est des humains, on a besoin de se faire plaisir, sinon on devient fou. Je pense que c'est important aussi de savoir se récompenser, de savoir kiffer, savoir prendre du plaisir. Mais le plaisir, ça vient aussi par le fait de ne pas manger tout le temps sucré.
Ça changera votre... D'ailleurs, est-ce que ça va changer vos habitudes alimentaires, Leïla?
Moi, j'ai fait tous les placards après le doc. J'ai regardé... Il y a une appli qui vous indique le détail d'un produit. Il faut juste scanner le code barre pour voir un peu...
Comment elle s'appelle, cette appli?
Je vais vous retrouver ça dans...
Ah ouais, okay. D'accord, parce que ça m'intéresse.
Moi aussi, ça m'intéresse, ouais.
Je vais vous retrouver ça tout à l'heure. Et j'ai fait tout le test et je me suis dit, mon Dieu, faut éliminer ça, faut enlever ça. Et je pensais avoir de bons réflexes. Par exemple, le jus de fruits que je faisais à la main... presser le jus d'orange par exemple, bah, j'ai compris qu'il fallait plus que je le fasse, qu'il fallait mieux que je mange une orange.
Pareil.
Parce que si je faisais un jus de fruits pressé, en gros je mets deux oranges et demi, trois oranges on va dire pour me faire un grand verre, c'est l'équivalent d'un Coca-Cola. Et moi qui ne bois pas de soda du tout, je me suis dit, par conviction,
c'est trop sucré.
Et surtout t'as même pas le sens, c'est-à-dire que tu manges une
j'ai
orange,
j'ai pas les fibres, j'ai pas
t'es
tout
pas,
ça
t'es pas rassasié,
ouais.
Tu manges une orange, tu dis c'est bon, suffit. Mais alors, qui mangerait trois oranges d'un coup?
Personne.
Par contre un verre d'un jus de fruits pressé, t'as le sentiment d'être pur, naturel.
Ça, c'est vrai, hein. C'est de la com.
Mangé, j'ai bu un bon, il est pressé.
C'est moi qui l'ai fait.
Acheté chez Bio, c'est bon.
C'est ça.
Ah non, moi, on m'a offert un extracteur de jus à Noël et je l'ai revendu sur Le Bon Coin.
Non, mais tu peux le faire avec les légumes en revanche.
Ah, pardon.
Le doc s'appelle Sugarland. Vous sortirez pas de là en disant c'est ma faute à moi si la planète va mal, mais vous sortirez de là en disant j'ai pas envie d'être le dindon de la farce, j'ai pas envie d'être manipulé par tous ces lobbies du sucre, et j'ai envie d'être maître de mon propre destin. Vous ferez le tri, après, comme l'a dit Kahn, vous ferez comme vous voudrez, vous restez maître au moins de ce que vous faites, en sachant ce que vous faites, c'est drôle, c'est intelligent, et c'est juste dingue que l'on vive comme ça aujourd'hui.
Mais
c'est juste dingue.
Voilà, faut faire gaffe au sucre, quoi. Quelqu'un a une clope ou pas sur...
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Kahn Kojandi revenait dans l'émission.
Oui, Kahn, quand je pense à vous, je pense forcément
je pense beaucoup à lui,
un événement culte et aussi à un instrument.
Bref, là, il y a un camion qui arrive, qui s'arrête. À l'intérieur, il y a trois moustachus, super sympa. Ils ouvrent, ils me disent « Hey, gamin, tu veux monter avec nous ?» Alors là, je monte avec les moustachus. Après, on fait les trucs qu'on fait entre moustachus. Je vais raconter tout ce qui se passe dans mes rêves non plus. Je veux dire, même dans les rêves, il y a une vie privée. Une
vie privée.
Bon, là, il y a Michel, le plus costaud des trois, qui me demande de regarder à l'arrière s'il y a du lubrifiant. Je me retourne, j'ouvre le rideau et là, l'appartement de mon enfance. Avec mon père, en slip, qui fait la sieste.
Voilà, votre père en slip qui fait la sieste. Une version scénique de Bref avec Navo et vous au violon. Pourquoi ? Parce que Bref, on vous en parlera, je pense, toute votre vie,
tant
je
mieux.
Pense que c'est plutôt joyeux. Et puis le violon aussi, parce que c'est une longue histoire.
Ouais, depuis que je suis gamin, je joue du violon alto. Et ce sketch-là, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un truc qu'on a écrit dans ma petite chambre avec Navo. On passait beaucoup de temps. Tom Villa, une vanne ?
Vous étiez moustachu.
On passait beaucoup de temps, on l'a écrit comme ça, vraiment, c'est à la sortie de Bref, on s'est dit, vous savez faire des sketchs? On a dit, on en a. Donc on a fait celui-là, on a sorti celui-là. Et c'était le concept, c'est Bruno Navo raconte une histoire et moi je l'illustre avec mon alto, donc je l'accompagne en musique.
Et pourquoi et le choix de l'alto?
Oui, MC à l'alto.
Ouais, l'alto, c'est pas mal.
Bah, l'alto, c'est un instrument que j'ai choisi quand j'étais gamin.
Mais comment on choisit l'alto quand on est enfant?
On choisit pas l'alto.
Ah.
C'est une erreur totale.
C'est l'alto qui vous choisit.
Non, même pas. C'est une erreur de gamin. Moi, je pensais que c'était un instrument avant. Et donc quand j'ai fait je veux faire de l'alto parce que personne voulait en faire dans ma classe, j'ai dit ah bah ça je vais le faire par total esprit de contradiction. Je l'ai fait, j'ai pris l'alto
et on est d'accord, le violon est l'instrument le plus difficile à apprendre au monde.
C'est complexe à prendre en main. Ouais. Il faut 10 ans pour vraiment commencer à comprendre un peu le violon.
On ne sait jamais où est la note, il faut la trouver.
Ouais, c'est ça, c'est surtout à l'oreille, quoi. C'est une sensation.
Alors, comment on fait pour choisir un instrument au hasard et en faire 12 ans? Parce que à la limite, une fois qu'on se rend compte que l'alto, c'est pas un instrument avant, on peut aussi faire marche arrière. Là, vous avez fait, vous étiez au conservatoire de musique de Reims, 12 années de pratique.
Ouais, je sais, ouais, mais je jamais su dire non, vraiment, pour le coup. J'ai dû faire, c'est ma vie maintenant? Ok. C'est parti. Et c'était mon quotidien. Vraiment, je pense vraiment, j'aime pas trop dire non. En fait. Je dire, bon, bah d'accord, c'est comme ça.
Okay.
J'assume.
À beaucoup de choses?
Et Tom Villa?
Le sucre.
Je sais dire non au sucre, par exemple.
Ouais. Et à trois moustaches dans un camion.
Et je crois que vous avez l'oreille absolue.
Il paraît, ouais.
Et ça vous sert
C'est une malédiction. Les gens pensent que c'est génial, ça donne pas 20% à la Fnac, ça donne rien du tout. C'est une malédiction totale. C'est-à-dire que maintenant, mais quand j'écoute un concert de musique classique, par exemple, là, pour expliquer aux gens, l'oreille absolue, c'est de pouvoir entendre n'importe quelle note et de savoir.
Et la reconnaître.
Et la reconnaître. Et là, l'idée, c'est.
Ou de pouvoir entendre n'importe quel morceau de musique et de pouvoir le jouer tout de suite.
Oui, on peut reconnaître facilement les notes, en tout cas. Et quand on va voir un Mozart, un concert, ou quand on écoute de la musique, moi j'entends des notes, en fait. J'entends 40 instruments qui font des notes. Et du coup, ça peut être...
Vous n'avez pas de la masse? Non, quand même.
Bah non, parce qu'on se focus sur des instruments, sur des airs, en fait. Il y a des airs qui sortent de la masse.
Ouais.
Oui. Et on entend les airs, Ah non, je vous assure, c'est vraiment troublant au début. Il faut vraiment se défocus un peu son attention.
Se défocaliser.
Il faut défocaliser.
Défocaliser. Alors, défocaliser, ça veut dire arrêter FUCA.
Il faut vraiment arrêter les FUCA. Non, mais en tout cas, il faut vraiment faire un travail de, bon, on arrête, on pense à autre chose et on se sert de la musique pour imaginer des choses. C'est assez troublant.
Ouais. Et même quand vous écoutez la radio, alors, de la musique,
une chanson,
quelle que soit...
Sauf quand j'entends des grands groupes comme Queen, par exemple, je n'entends pas la musique. C'est ça qui est dingue. Quand les mix sont vraiment bien faits, bien sentis, bien, la musique, elle devient organique et non plus technique, ça j'aime bien.
Et pour les prochains spectacles, il serait question de jouer de votre instrument sur scène?
C'est une excellente idée.
Il est en train de le roder, donc il le sait.
C'est une excellente idée. Non, pour l'instant, je repars encore dans le texte. Je repars dans le texte et je ressortirai mon instrument quand j'aurai une validité. Pour l'instant, il est chez moi.
Classe.
Là, vous êtes un peu Batman, je ressortirai mon costume.
Dans quelques minutes, la bande originale de La Vie de Kian Kojandi. Encore une fois, nous parlerons de cette manière dont on est manipulé par le sucre, la grande invasion du sucre avec Stéphane Aurel, notre journaliste invité tout à l'heure. Mais d'abord, voici l'humeur de Marina Rollman.
Oh là là. Ah, ça tombe bien, les amis, on parlait musique et il se trouve que moi, lundi dernier, j'ai joué à l'Olympia. Voilà. C'était dans le cadre du Festival d'Humour de Paris, une soirée spéciale France Inter. On a fait des blagues, c'était faussement de gauche, certains étaient drôles, il y avait aussi Tom Villa, bref, c'était super. Mais figurez-vous que sur l'initiative de ce monstre de perversité capillaire qui est Alex Vizorek, j'ai également chanté à l'Olympia, avec André Manoukian au piano. Ouais. Alors les esprits chagrins, non, tel Tom Villa, vous diront que cette performance m'a valu une nomination pour un malaise d'argent au Festival des Mélomanias de la Rock sur Plate. Mais je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est la France, c'est quand même un pays où une comédienne sur deux, après 10 ans de carrière, trébuche pendant une laryngite et paf, en sort un album qui finit 10 de platine. Donc prenant ça en compte, je trouve que j'ai fait le boulot, voilà. Mais c'est vrai que cette performance, ça me travaille depuis 4 jours, au point que je crois que cette soirée, ça a été un peu mon ciao pantin, quoi. Je crois que j'en ai assez de tourner en dérision le monde qui nous entoure comme ça. Finalement, l'humour, est-ce que c'est pas une dérobade, une distanciation, une fuite hors du monde? Pourquoi on perd notre temps à ricaner comme ça alors qu'on pourrait faire des figurines en pâte à sel, jouer de la cornemuse, se faire harceler à une soirée des Césars du court-métrage, célébrer l'univers en récitant des haïkus sur une digue? Enfin voilà, je songeais à ça, à l'indicible qui nous file entre les doigts, à l'ivresse d'être pourvu de sens et de pouvoir en jouir pendant les quelques années d'une vie humaine, ce battement de cils qu'est l'existence si brève quand on la replace dans la durée de l'histoire de l'univers. Et alors que, pour être honnête, je commençais un petit peu à me faire chier en songeant à ça, donc je suis tombée sur un article qui disait que la manière dont l'explosion des supernovas disperse les vents galactiques est similaire à la manière dont les vagues se propagent dans l'océan et donc par extension à la manière dont les fluides se déplacent dans une cellule. Ouais, wow. Ce que je... En d'autres termes,
l'infiniment grand, l'infiniment
voilà,
petit.
Exactement. Voilà. L'essence du mouvement, c'est la même partout. Ça veut dire que l'intuition primale qu'on a tous, qu'on est connecté dans un grand tout, eh ben c'est juste voilà que la violence, les luttes, c'est parfaitement inutile puisque je suis toi, tu es moi, nous sommes le cosmos. Et pff, moi, ça m'a waouh quoi. Et alors, j'étais chez moi comme ça, émue aux larmes par la beauté de cette nouvelle et à la fois apaisée, tu vois, comme si on me révélait quelque chose que j'avais toujours su, sur le point d'enlever mes vêtements, de m'enduire de peinture et de me frotter sur les murs pour célébrer la vie, le monde, ce continuum dont nous faisons tous partie. Et la page d'après de ce magazine scientifique m'apprenait que les concombres de mer respirent par l'anus.
On embrasse les concombres de mer qui nous écoutent.
Bah non, justement,
non. Tout le monde voit ce que c'est, les concombres de mer. C'est des animaux marins qui, pour les plus jolis, ressemblent à des grosses chenilles et pour les moins gâtés, à des pneus. Et quand j'ai lu ça, donc, les concombres de mer respirent par l'anus, je me suis dit, oui, le monde, c'est beau, mais c'est marrant aussi un peu. Alors, à tous ceux qui se réjouissent du week-end pour profiter des leurs, je leur dis, allez-y, aimez-vous les uns les autres, la vie est si brève. Et à tous ceux qui se réjouissent de la fin de cette semaine parce qu'elle était pénible, pensez à nos frères, les concombres de mer.
Merci Marie-Laure
Loire. Maggie, la bande originale.
Je trouvais le choix de la bande originale du doc aussi très intelligente, ce titre de Dépêche Mode, I Just Can't Get Enough. Je ne peux pas en avoir assez, parce que ce qui est important aussi de le rappeler, c'est que le sucre appelle le sucre, le sentiment de manque que vous aviez, c'était pas uniquement je ne sécrète pas l'endomorphine ou je sais plus quelle substance qui
non, la dopamine.
La dopamine, pardon, qu'il y a dans mon cerveau, ce je suis en manque au point d'avoir mal à la tête, au point de d'avoir des presque des douleurs physiques.
D'y penser quoi, de me retenir vraiment physiquement de manger, ouais.
Et ce côté être en manque, moi c'est ce qui m'a le plus choqué dans ce doc, c'est pas spécialement qu'il y ait du sucre ou qu'on ait besoin de se rassurer ou d'être de sécréter en permanence cette sensation de plaisir en bouffant du sucre. Vous avez envie de manger du sucre, mangez du sucre, régalez-vous, c'est votre vie. Ce qui m'a choqué, c'est que on n'en ait pas conscience et qu'on nous manipule, qu'on en mette partout pour qu'on en ait encore plus envie, encore plus besoin et qu'on aille en chercher encore plus. Il y a des images d'un gamin qui boit un soda Mountain, je sais pas trop quoi, qui existe heureusement pas en France, enfin je ne crois pas, c'est même pas des dents, c'est pas des ratiches qu'il a, c'est de la moisissure, de la pourriture, il a les gencives attaquées, il a à peine 14 ans,
il a 18 ans.
Ouais.
Et il consomme aussi
depuis l'âge de 4 ans, voilà, 3 canettes par jour, je crois, un truc comme ça.
Plus, non, l'équivalent de 12 canettes, l'équivalent de 3 bouteilles de quasiment d'un litre de soda. Il boit ça comme de l'eau, en fait.
Et au moment d'être opéré par un dentiste pour sauver ses dents, j'ai arrêté de regarder à ce moment-là.
C'est très bien à ce moment-là.
Le dentiste ne peut pas l'anesthésier tellement.
Il résiste à l'anesthésie,
Les produits n'ont aucun effet sur lui, tellement il est dopé, quoi, tellement il est shooté.
C'est fou.
Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il sort de chez le dentiste avec les dents pourries et il dit je vais continuer de boire mon soda. C'est-à-dire que c'est sa cam, quoi.
C'est sa cam, exactement. Bah, c'est ça, c'est là, on voit vraiment la cam, la puissance de la cam, quoi.
Ça fait peur, mais encore une fois, ce qui est important, c'est le libre arbitre. Décidez tout seul, comme un grand, si vous prenez ou pas 40, 50, 80 cuillères de sucre, mais faites gaffe, il y en a partout et elles sont planquées. Ce doc en version française mi-américaine, on entend quand même les voix, quoi. Tout n'est pas totalement doublé, mais enfin, vous êtes le personnage, parce que là, vous êtes omniprésent, et c'est Kian Kojandi qui porte ce doc qui s'appelle Sugar qui sera au cinéma à partir de mercredi prochain. Nous allons parler avec Stéphane dans quelques instants, mais d'abord la BO de la vie de Kian Kojandi. En 2004, vous arrêtez vos études et vous écoutiez... Là, il faut resituer cette musique. La BO d'un film.
Poupée russe s'appelle Celia's Kiss. C'est quand c'est la fameuse scène où les bateaux mouches dans le film de Clapiche... éclaire une chambre où je pense qu'ils viennent de faire l'amour et on voit le plafond éclairé par les bateaux mouches, c'est assez magnifique. Et puis c'est une musique qui je me rappelle, j'avais carrément acheté j'avais pris la BO et je faisais des mini courts métrages tout un été
Sur cette BO,
en fait, je me faisais des... Ouais, je rêvais d'être dans un film de Clapiche, quoi.
C'est original de faire un film à partir d'une BO et pas l'inverse.
Ouais, bah pour l'instant, j'avais juste mon petit caméscope. Je me suis dit, bon, on va faire ce que j'ai envie. On va reproduire les maîtres.
Et en 2004...
Ça pourrait s'appeler un clip, hein, finalement.
Bon, c'est oui, clairement
c'est ça, BO à partir d'une musique.
Clairement un clip.
Et en 2004, en fait, vous êtes en maîtrise de droit. Donc j'imagine que... Vos parents vous voient bientôt avocat et vous annoncez en fait que vous arrêtez.
Et ouais, la meilleure nouvelle du monde pour mes parents.
Ah ouais, parce que maîtrise, on est à bac plus 4 déjà.
Ouais.
Donc on se dit que le chemin est plutôt...
Ça y est, mon fils va devenir avocat.
Ouais, on va lui acheter une robe, mais en fait...
Il va s'en acheter d'autres.
Et ouais,
du coup, clairement. Bah ouais, ça n'a pas été la meilleure nouvelle pour mes parents, ça, de quitter mes études, mais bon, ça a été...
Et pourquoi ? Pourquoi tout d'un coup décider d'abandonner quel est votre élément déclencheur?
J'ai un ami qui me dit je suis à Paris, je fais des cours de théâtre. Je fais ouais, on peut prendre des cours de théâtre. Ouais, j'apprends professionnellement le théâtre. Je fais, ah bon, c'est carrément un métier le théâtre. Je savais pas, je pensais que c'était pour les gens de la télé, moi. Et du coup, je le suis. Il me dit viens tester. C'est vrai quand ouais. On est. Franchement, quand j'ai grandi dans un quartier de Reims, pour moi, être acteur, c'était pour les acteurs. C'était pas pour moi en fait.
On voit pas le chemin pour y arriver, ouais. C'est vrai,
on,
de l'extérieur.
On est d'accord, mais souvent dans les écoles de province, de France et de Navarre, il y a des profs de français qui font des petites représentations, des cours de théâtre.
Oui, mais
des...
c'est de l'amusement.
Il y avait des MJC. On va en vivre.
J'en ai fait, mais pour moi c'était de l'amusement. Ouais. Je me suis jamais dit ça va être un métier, parce que dans le système éducatif où on est, il n'y a pas le code 313, il n'y a pas je voudrais être comédien, quoi, je voudrais faire rire les gens ou tout ça. Et du coup, ça a été un.
Il y a encore moins de garanties de l'emploi, surtout.
Il n'y en a pas ouais. Non plus dans tous les autres, donc je pense qu'il faut...
On pensait que oui, mais...
On pensait que... Enfin, l'illusion est forte, mais il ne faut pas y croire.
Comme le sucre.
C'est cool, exactement. Je vais à Paris, je rentre dans ce cours de théâtre qui est le cours Simon, et je me mets à rigoler pendant 3 heures, mais à taper des barres et à me dire « Ok, j'ai un billet de retour, mais je ne le prendrai pas. » Ça, c'est mon côté poète. Non, mais je ne suis pas rentré à Reims, j'ai dû trouver un métier, trouver un appartement, et... trouver une sorte de petit salaire pour payer mes charges et puis l'aventure était partie. Ça a été une guerre pendant quelques années avec mon père, c'était un peu une guerre froide, on se parlait par mère et donc femme interposée. Et
on s'est plus trop parlé. La gueule,
non, mais après, ce qui est fou, c'est que de faire un métier qu'on aime, c'est le pire choix pour votre entourage. Jusqu'à temps que ça marche, ça devient le meilleur choix pour votre entourage. Ouais. T'as eu raison de le faire, mais t'as tort de le faire jusqu'à temps que...
Ça marche pas.
Jusqu'à temps que t'aies raison de le faire.
Parce qu'ils ont peur.
Mais oui, c'est de la peur. Ouais. Donc je comprends tout à fait. D'ailleurs, je pense que je réagirais pareil si ça m'arrivait. Mais ouais, gros changement. Et franchement, le vrai kiff de plus avoir mal au dos. Parce que j'avais mal au dos pendant mes études de droit. Et je portais un truc et je l'ai enlevé.
Un poids que vous ne supportiez pas.
Ça n'était pas ma vie, quoi. Et là, ça, c'est complètement ma vie.
En 2008, vous écoutiez... Baby Chambers, j'adore.
C'est extraordinaire.
Ouais. Ce qui est bien là, c'est que tu peux pas reconnaître une note. Hein.
C'est la rumeur, je crois.
Delivery.
Et 2008-2009, Cannes, c'est une première sur scène avec la bande-annonce de Ma Vie.
Ouais. J'écris ce spectacle. Là, ce que vous entendez, c'est la bande-son de ma rupture avec ma copine. J'ai rebondi de cette rupture en me disant je vais me consacrer complètement au spectacle, et j'écoutais Baby Shambles, enfin Pete Doherty. Voilà, cette musique là, c'est vraiment la musique du je vais pas me laisser faire, je vais rebondir de cette rupture, je vais arrêter de pleurer. Et c'était vraiment ça pour moi, cette chanson. C'est vraiment une je me rappelle très bien, petit appart, je vivais chez un gars qui me soulouait une chambre, et c'était là c'est vraiment la BO de ça.
Et c'est des sketchs qui vont ensuite, ou des extraits de spectacles qui vont présents sur France 4, dans l'émission Plié en 4.
Ouais, la Plié en 4, avec Cyril Hanouna à l'époque, c'était la première télé. Première télé avec toute l'équipe, Arnaud de sa mère à l'époque, il y avait...
Baptiste Le Caplin,
il y avait qui d'autre ? Il y avait tout le monde, quoi, Jérémy Ferrari, il y avait vraiment tout le monde, quoi, à l'époque, qui était là, quoi. Donc c'était un peu la première émission d'humour qu'il y avait, où on mélangeait deux sketchs pendant 5 minutes et c'était assez cool, quoi, assez formateur.
Et puis une chronique aussi sur...
Cinéma.
Cinéma, voilà, vous décortiquez...
Le festival de Cannes. Ouais, c'était cool aussi, ça, c'était cool. C'était cool, mes premiers podcasts.
Qui assume la vanne, le festival de Cannes, ça, c'est
totalement assumé.
D'accord. Non, mais voilà, quand tu le vois, franchement, tu te fais, ok, on excuse le jeu de
mots. C'était génial. Mais à l'époque, je pensais, j'étais en formation, je pensais que le jeu de mots, c'était cool.
Non, mais vraiment, le festival de Cannes, c'était déjà un peu bref avant bref. Il y avait tellement de choses, il faisait tout seul, c'était le seul comédien. Il y avait des perruques et tout, mais c'était vraiment génial. Je vous conseille de les retrouver sur
Internet.
C'est
gentil.
C'était vraiment bien.
Merci beaucoup.
En 2013, vous écoutiez What Was it a dream, pardon, est-ce que c'était un rêve?
Ah, l'anglais, putain.
Ah ouais, c'est, je sais. C'est de l'anglais, t'es sûr?
Bah, à la base, oui, mais...
Parce que The Do, ils sont français.
Et 2013, c'est vos débuts au cinéma?
Je sors dans quel état il est quand il écoute cette musique.
Ah ouais.
Là, c'est des claquettes.
Donc, quelle situation?
Il court. Là,
putain.
Ah, c'est la...
Là, c'est quand vous avez envie d'être seul, c'est quoi? C'est au casque, c'est...
Non, c'est encore une fois, c'est encore lié à pas mal de choses émotionnelles, enfin, je pense comme tout le monde, mais c'est la perte de mon père, je m'en remets, je loue, Lou arrive au cinéma, je tourne Lou au cinéma de Julien Niel, donc c'est mon premier film, mon premier long-métrage. Il y a un côté un peu... on vient de quitter la tristesse, on revient un peu à la vie, on écoute des choses positives, puis il y a peut-être un amour naissant qui arrive, donc voilà, c'est ça pour moi la VO de The Do. Et la chanson est bien antérieure à 2013, mais c'est là que j'ai découvert The Do, quoi.
Et justement, cette année, c'est voilà, le première apparition au cinéma, mais avant Lou, le journal intime qui est adapté d'une BD, il y avait Casse-tête chinois.
Casse-tête
quand même.
Chinois,
ouais. On a parlé de Clapiche tout à l'heure.
Ouais.
Ça doit être un rêve.
Incroyable, ouais. Quand Cédric Clapiche, je vous dis. Je pensais à toi pour un truc. Il n'a pas du tout cette voix. C'est ça qui est cool. Il n'a pas du tout cette voix. Non, mais ouais. Quand Papa 2 t'appelle, tu viens, quoi.
Papa 2.
Ouais.
C'est vrai.
Bah ouais. C'est. Enfin, je lui dois énormément en termes d'inspiration. Je lui dois énormément en termes de. Enfin, ouais. Il a créé un truc avec son personnage de Xavier, les poupées russes, à l'auberge espagnole, une énergie. Quand on parlait tout à l'heure de j'aimerais bien faire ce métier un jour, je pense que ces films-là m'ont inspiré à me dire mais j'aimerais trop faire partie de cette fête qui a l'air incroyable de pouvoir écrire sur sa vie, écrire sur son ennui surtout parce que c'est ce qu'il fait à la manière de Jean-Pierre Jeunet aussi qui m'a beaucoup influencé. Il y a pas mal de gens qui m'ont influencé comme ça et il y a Roger Avary, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle Les lois de l'attraction qui est formidable. David Fincher, tous ces gens-là font partie de ces gens-là qui ont créé des fêtes et j'avais envie d'y aller, quoi.
Un gros cinéphile, Kian.
Ouais, surtout à l'époque, ouais. C'était le seul moyen de sortir de ce mal de dos, ouais, l'imagination.
Et à partir de 2013, vous enchaînez, on l'a dit, pas mal de films chaque année, plusieurs films, des beaux projets, notamment Rosalie Bloom où on vous avait beaucoup aimé.
Ouais,
récemment dans Au revoir là-haut, notamment.
Oui, d'Albert Dupontel.
Voilà, il y a à chaque fois des vrais choix, des vraies propositions, toujours très, très diverses. Et...
Oui, puis il y a un spectre qui s'élargit dans le jeu d'acteurs que vous avez. C'est la première fois que vous faites une voix off, d'ailleurs.
J'avais fait une voix off, oui. J'avais fait un doublage pour
un dessin animé.
Ouais. Ouais, pour Disney. Mais sinon, ouais, c'est la première fois que je faisais vraiment une voix. Non, mais j'ai fait une série qui s'appelle Bref, je crois aussi. J'ai fait une voix off dedans.
Ouais, c'est vrai.
Vite fait.
On en aurait parlé, franchement. On est au courant tout, nous, ici. Hein,
t'es sûr que tu veux pas Internet, Nagui? Parce que de quoi ça te servirait, hein.
Ça marchera jamais. Je m'y connais, ça marchera pas.
On te laisse un CD AOL. Tu peux l'installer si tu veux. Voilà, libre à toi de l'installer.
Le doc s'appelle Sugarland. Il sortira mercredi prochain avec donc en voix off celle de Kian Kojandi. C'est un film de Damon Gamow. Et nous avons demandé à Stéphane Aurel, merci Stéphane de venir à ce micro. Vous êtes une brillantissime journaliste d'investigation. Il faut toujours ajouter indépendante quand on dit journaliste d'investigation parce qu'on a l'impression qu'on peut pas être totalement indépendante dans ce monde-là.
C'est plus que ça prend beaucoup de temps, donc il y a personne qui vous salarie vraiment pour faire ce boulot-là.
Ouais, c'est
on
compliqué.
Embrasse Élise Lucet.
Alors, vous êtes l'auteur aux éditions du moment de Intoxication, c'était sur les perturbateurs endocriniens. Et médicamenteur, vous avez également réalisé deux docs, pardon, qui s'appellent La Grande Invasion et Endoctrinement, avec le T entre parenthèses pour faire le jeu de mots avec endocrinien, endocrinement. Dans le doc Sugarland, on voit bien le pouvoir de ces entreprises et même, on les a traités tout à l'heure de dealers pour réussir à vendre du sucre et de plus en plus de sucre et nous rendre dépendants de ça. Pour vous, c'est une évidence, vous avez toujours su ça, c'est...
La littérature scientifique le dit, en fait, pour le grand public, c'est en train de devenir quelque chose qui se connaît, notamment par ce type de documentaire que j'ai trouvé vraiment super en termes justement de vulgarisation, d'humour et tout ça. Mais par exemple, un des exemples qu'il y a dans le film, c'est cette guerre entre est-ce que c'est le sucre ou est-ce que c'est le gras la faute. Et en fait, il y a un scientifique en 1965 qui a pensé que c'était le sucre le problème, et l'industrie du sucre a financé des études qui ont trouvé un coupable alternatif, ouais, le gras. Donc ils ont financé des scientifiques qui ont produit des études qui disaient que bah non, c'était pas le sucre le problème.
Ça on le comprend bien dans le doc. Alors qui sont ce sont les industriels qui fabriquent du sucre, qui payent ces chercheurs qui vont dire que le sucre c'est bon pour la santé et le gras c'est mauvais?
Le lobby du sucre, c'est pas que les fabricants de sucre, le sucre de canne, la betterave, ouais. c'est toute l'industrie agroalimentaire, parce que justement le principe aujourd'hui de la présence du sucre, c'est qu'elle est cachée, comme ce que montre très bien le film. Donc ça va de Kellogg's, donc de la céréale de petit déjeuner, qui a cette image, la céréale, quoi, mm-hmm. qui est le truc qu'on doit donner à ses enfants.
Des fibres, ça fait du bien.
C'est presque un champ, la nature qu'on donne à manger à ses enfants au petit déjeuner, alors qu'en fait c'est un bol de sucre, quoi.
Mais ce que je comprends pas, c'est à l'ère justement où on dénonce les fake news, où il va y avoir des règles, des lois, surtout en période électorale, comment est-ce qu'on peut laisser des grosses entreprises payer des études, communiquer dessus sans qu'on les les conteste ?
Avoir plus de pouvoir finalement que les organisations de santé ou les médecins.
Ben c'est en fait cette manipulation de la science sponsorisée par les grandes entreprises, elle a lieu depuis un certain temps. Mm-hmm. Et la matrice de tout ça, c'est l'industrie du tabac.
C'est
les années 50, en fait. Bah, avant, il y a l'industrie du plomb aussi, qui ont été pas mal avec le plomb dans l'essence et dans les peintures. Mais l'industrie du tabac, donc, qui a eu ce problème dans les années 50, c'est que la science commençait à montrer que fumer donnait le cancer. Mm. Plutôt que de dire la vérité aux consommateurs de clopes, ce qui se passait, l'industrie du tabac a décidé de mentir et de construire le mensonge en finançant de la science qui contestait et qui allait harceler les preuves de l'existence d'un lien entre la cigarette et le cancer.
Et c'est un mensonge à l'envers, parce que le tabac, en fait, ils essayent, en payant les études, de nous dire que, ils nous disent pas c'est super, et ils nous disent c'est pas grave ou c'est pas dangereux. En revanche, les céréales ou tout ce genre de produits, les produits laitiers, tout ça, on nous donne la sensation
bon
et on nous
santé.
Dit c'est bon pour la santé, ça. Source de protéines,
exactement.
etc. Donc c'est encore plus, je trouve, vicié ou vicieux dans la façon de fonctionner.
Mais ça, c'est le marketing qui fait. Ouais. Qui fait.
C'est le mensonge par omission. C'est le mensonge par omission. Genre, oui, bah, il y a la protéine, il y a tout ça.
C'est pas pareil.
Non,
la clope.
On ne vous a pas dit qu'il y avait trop de sucre.
La clope, ils disent pas fumer, ça va être bon pour votre santé. Alors que les pubs ou les industries du sucre disent manger du sucre, c'est bon pour votre santé, vous en avez besoin pour votre énergie.
Il y a eu une période où le tabac le faisait. Il y a eu une période où on dit, mon médecin fume des Lucky Strike, tout va bien.
Non, mais ça, c'était oui, années 50.
Dans les années 20, il y avait la cocaïne pour votre enfant, des gencives en pleine santé.
Mais l'industrie agroalimentaire, enfin le lobby du sucre, a aussi son coupable alternatif, qui est le manque d'exercice physique, ce qui est dit dans le film. C'est-à-dire aujourd'hui, les grandes firmes disent que, enfin en gros, les gens sont gros et diabétiques, c'est parce qu'ils ne bougent pas leurs fesses et qu'ils regardent trop la télévision. Alors que
c'est pas notre faute à nous, le sucre, c'est leur faute à eux, c'est ça?
Exactement. Et c'est un mouvement assez général, même pour quand on parle des expositions dans un cadre professionnel, c'est-à-dire des ouvriers qui sont exposés à des substances toxiques qui donnent le cancer. Les industriels disent que c'est la faute des ouvriers parce qu'ils ne sont pas assez bien protégés. Il y a toujours une espèce de renvoi dans le système ultralibéral à la responsabilité des gens.
Je voudrais juste distinguer deux choses. D'un côté, la publicité, avec en effet des personnes qui font du yoga sur des paquets de céréales. Le céréale, c'est juste un énorme bol de sucre, mais on dit c'est bon pour la santé. C'est généralement une fille extrêmement belle, pas très habillée, parce que pourquoi s'habiller pour manger des céréales?
Mais ça, c'est le matin, t'imagines bien.
Qui fait le lotus sur un galet. Et puis
c'est
voilà,
ça, oui, comme tout le monde. Bref, ça c'est de la pub, c'est du marketing, j'entends. Mais j'ai l'impression que ce lobby va beaucoup plus loin en termes de peut-être de pot de vin, de financement occulte, ou même de financement de parti politique, en tout cas aux États-Unis, et que c'est beaucoup plus pernicieux comme un cartel
de drogue,
oui.
Alors, la corruption, ça existe, mais c'est pas en fait l'explication principale.
D'accord.
Le lobbying, c'est pas synonyme de corruption. Le lobbying, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et ce qu'on constate que ce soit l'agroalimentaire, l'industrie des pesticides, on a vu tout ça avec Monsanto et le glyphosate.
C'est un réseau d'influence.
Le lobbying, c'est
auprès de décideurs.
C'est intervenir sur l'élaboration de la loi et par définition, il faut
influencer les décideurs
le plus en amont possible.
Ouais.
Donc ça peut être aussi le petit fonctionnaire dans son bureau à la Commission européenne qui est responsable d'une réglementation extrêmement technique. Et le lobbying, ça consiste en fait à apporter les informations sélectionner les informations et les apporter aux décideurs.
Donc c'est aller voir des gens qui pourraient avoir une influence positive, salvatrice pour la planète entière, et leur dire, écoutez, on va vous offrir un voyage, on va vous donner de l'argent, vous embêtez pas à rédiger cet article comme ça.
Ça c'est de la corruption.
Si juste vous mettez un petit... Bah alors c'est quoi le lobby, c'est juste, viens on va prendre un café, il faut que je te parle.
Non, ça, absolument.
Il y a de l'argent.
Le quotidien du lobbying, c'est extrêmement ennuyeux. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer.
Il y a de l'argent.
C'est prendre des rendez-vous, envoyer des emails, relancer les gens, salut, comment va votre fils. C'est avant tout une proximité intellectuelle, humaine, institutionnelle. Donc, il y a des lieux comme Bruxelles où il y a un tout petit lieu géographique qui facilite en fait cette espèce d'entre-soi. C'est une question d'entre-soi en fait, de proximité, de personnes et d'intérêts.
Ça semble une évidence maintenant de dire et ce documentaire et d'autres documentaires, notamment il y en a un qui est évoqué dans le film à propos de ses expériences sur un rat de laboratoire à qui on donne du sucre, on lui donne de la coke, puis on le met en manque pendant une semaine ou deux, on met le rat à nouveau dans une pièce où il y a d'un côté un bol de sucre, de l'autre côté un bol de cocaïne. On voit clairement à l'image, mais c'est frappant. Ouais. Le rat qui hésite, qui tu le vois comme ça avec son museau, il renifle d'un côté, il renifle de l'autre, puis il va vers le sucre.
Donc moralité, mettez de la cocaïne dans vos yaourts.
C'est-à-dire que c'est
bon pour vos gencives.
C'est-à-dire que le sucre rend plus accro et plus dépendant que la coke.
C'est un travail qui a été fait par l'équipe de Serge Ahmed à Bordeaux, l'équipe française.
Voilà, exactement.
Ils ont démontré effectivement que les rats, dans des expériences où les rats peuvent appuyer sur une petite manette, genre pour avoir soit de l'eau sucrée, du sucre, soit de la cocaïne, mais c'était quasiment kiff-kiff en termes d'addiction. Quoi.
C'est fou. Alors on est d'accord. Ne nous trompons pas sur ce que je viens de dire. La drogue c'est de la merde, la cocaïne c'est de la merde, c'est de la saloperie. Mais comprenez bien que si on n'arrête pas de dire que la drogue c'est de la merde, le sucre c'est pire.
Et c'est légal.
Et puis
c'est moins cher.
Et puis en
termes d'organisation, c'est plus facile. T'as l'air au courant, toi.
On nous en refile partout. Non, mais c'est assez inquiétant. Comment les politiques, entre guillemets, ceux que nous mettons au pouvoir, ne nous protègent pas plus de tout ça?
Justement, c'est cette question de l'entre-soi ou de la trop grande proximité des intérêts économiques avec le monde politique. On l'a vu par exemple en France avec la question de l'étiquetage alimentaire. Ouais. Ça fait des années, cette espèce de truc qui revient tout le temps. C'est est-ce qu'on peut mettre un étiquetage qui soit plus clair que 35,3 grammes par portion.
Genre un feu rouge, par exemple.
Exactement.
Un feu rouge, feu vert, un feu orange.
Donc on parle de feu au début de feu tricolore au niveau européen. Donc rouge, orange, vert selon la quantité de graisse et le sucre en moyenne. Donc ça, le lobby agroalimentaire s'est battu comme un dingue pour empêcher que ça passe au niveau européen.
Mais ils ont de leur propre aveu
dépensé 1 milliard d'euros pour empêcher l'adoption de feux tricolores.
Un milliard, ça va où? C'est qui est touché?
En fait, ils financent des études. Ils ont financé, pour ce cas-là, précisément, c'était en 2006, ils ont financé des kilotonnes d'études qui montraient que les feux tricolores étaient inefficaces pour bien informer les gens, les consommateurs. C'est l'organisation de conférences, c'est tout un package de relations publiques, etc.
Si vous en parlez, c'est qu'on est au courant de ce mécanisme. C'est-à-dire que c'est que l'élu qui est censé représenter, il est au courant un peu de ces mécanismes-là. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah non, c'est un mec sympa, il m'a proposé une étude ».
Le problème, c'est que ça dépend. Si vous voyez 10 lobbyistes de l'agroalimentaire qui vous disent une chose et une seule personne d'une ONG qui vous dit en fait ce qu'ils vous ont raconté, c'est du blabla. Et c'est ça le rapport de force aujourd'hui, notamment à Bruxelles.
Il n'y a pas des chercheurs indépendants et honnêtes ? Si, quand même. Il y a des chercheurs indépendants et honnêtes.
Bien sûr, par l'État.
Bien sûr, mais ce n'est pas les chercheurs qui vont parler aux députés.
Merci beaucoup Stéphane Aurel, et puis surtout on a écouté, vous avez apprécié ce doc, Sugarland.
Ah oui, j'ai trouvé vraiment très bien.
Je prie de m'excuser, il suffirait que les scientifiques d'État qui font des études indépendantes et tout aient un attaché de presse en fait. C'est ce qu'il en manque. Il manque de la com.
Un micro.
Ça aiderait, mais ça suffirait pas.
Et on pourrait pas interdire que les lobbies entrent en contact avec les élus tout simplement.
Ou un label, un label d'écoute en fait, comme ça un député n'aurait qu'à écouter les gens qui ont un label d'écoute.
Et qu'il a un intervenant à qui il s'adresse pour avoir des informations précises.
Il y a énormément de réflexions qui sont en cours sur comment réglementer les lobbies.
Il faut que vous trouviez une solution, Stéphane. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas ce qu'on fait.
Mon rayon, c'est pas les solutions. Mon rayon, c'est les mauvaises nouvelles. Moi,
ah oui, c'est vrai, vous êtes journaliste. Pardon, autant pour moi.
Tanguy Pastureau, vous devriez faire du sport, vous aussi, pour manger tout ce sucre.
Oui, je sais, parce que déjà, entrer en studio et en sortir dans un quart d'heure, ça m'épuise. Et j'ai tort, parce que le sport, ça permet de faire la paix. La Corée du Nord et la Corée du Sud vont défiler ensemble au JO. Yeah. Peace and love, mes amours. Et ça permet de s'élever socialement. George Weah est président du Liberia. Vive le sport!
On en parle tout à l'heure. Notre invité est Ken Cogentil jusqu'à 12h30 sur Inter. Bienvenue dans la bande originale avec Leïla Kadroboudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Hey, bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Marina Rollman.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Dans quelques minutes. Et notre invité, Kian Kojandi.
Bonjour.
Kian Kojandi qui a prêté sa voix, enfin financé, sa voix au documentaire Sugarland, ce premier long métrage du réalisateur australien Damon Gaimo, qui sortira ce mercredi. Un jeune documentariste australien qui va être papa et qui d'un coup se dit, mais dans quel monde agroalimentaire mon enfant va naître? J'ai envie de savoir, avant d'exposer mon enfant à des saloperies en termes de nourriture, j'ai envie de savoir ce qui se passe sur le sucre. D'ailleurs, j'ai oublié, parce que j'ai vu le doc il y a une dizaine de jours, pourquoi il s'est focalisé sur le sucre et pas sur autre chose? Il aurait pu se dire, je vais faire gaffe au colorant, j'aurais pu faire gaffe aux graisses.
Il fait part, au fait, sur cette étude des années 60 qui disait que cette guerre interne entre le sucre et la graisse, on disait le sucre est responsable des maladies cardiovasculaires, mais on disait non, c'est la graisse, deux sortes de lobby, de sorte de groupe qui disait non, ils se sont fait une guerre un peu de de communication, et c'est la graisse qui a perdu, du coup tous les produits sont devenus allégés en graisse. Et c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Et il a dit, il est parti du statu quo, il a remis en cause le statu quo.
Il décide de se mettre au régime, à un régime équilibré, sain, sans aller dans des fast-food, sans manger des produits qui sont clairement trop sucrés, sans tomber dans le piège des sucreries ou du merchandising. Il va dire, je vais manger sain, je vais manger light, je vais manger... Et qui dit light dit 0% de matière grasse, mais...
Il n'y en a pas marre de se faire un petit plaisir.
Ne veut pas dire... Il le fait, mais plutôt avec des jus de fruits, par exemple, tu vois. Des jus de fruits.
Il prend rien de sucré.
Voilà.
Il prend rien d'officiellement sucré, genre une glace ou des sucreries ou du... Enfin voilà, il prend juste des produits avec... Il fait confiance à l'industrie.
Et quelquefois le plaisir de la régression, de manger quelque chose...
Non, parce qu'il veut voir à quel point, en mangeant sain, d'après la pub, d'après les commerces, d'après... ce qui va lui arriver. Et ce qui lui arrive, c'est qu'il dépasse les 40... Enfin, il arrive à 40 cuillères de sucre par jour en mangeant sain, en mangeant light. C'est ça que je trouve aberrant. C'est-à-dire cette espèce de décalage qu'il y a entre la communication du marketing, du lobby, de l'industrie agroalimentaire et la réalité de ce qu'il va ingurgiter, la réalité de son tour de taille, tu m'as dit tout à l'heure.
Plus 10 cm.
Voilà, il a toutes les poignées qui sortent, il a le bide qui sort, il est autant enceinte que sa propre femme. Il prend des kilos, les médecins sont inquiets pour son taux de
son foie, pour son foie qui est devenu très gras. Son foie est devenu très très gras en quelques
mangeant des yaourts à la vanille, quoi, par exemple. C'est le genre de produit qu'il
mange. C'est traître la vanille.
Non, mais en mangeant des yaourts 0% parfumés. Mais vanille, bing, et le mec il a des tonnes de sucre.
C'est quoi la démarche d'un Size Me?
C'est ça, mais seulement c'est pas. On sait que quand tu vas 40 jours dans un McDo.
J'étais occupé.
Pardon. Il n'y avait pas que toi.
Enfin bref, toutes ces questions sont d'autant plus intéressantes que ça nous réveille un tout petit peu sur la manière dont nous sommes manipulés, et un peu comme Kian, comme Leïla, comme moi aussi, on va se mettre à regarder les étiquettes et faire gaffe et à se dire, et si on mangeait moins de sucre, en tout cas, sans le savoir. Ouais. Parce que l'important, c'est quitte à en manger, autant le maîtriser.
Autant aller acheter un bon millefeuille.
Ou le tiramisu dont vous parliez tout à l'heure.
Une bonne glace, un bon pot de glace quand tu viens de te faire larguer.
Et de l'assumer.
C'est un bon délire.
Ouais, mais ça, je trouve aussi que c'est une imagerie qu'on a dans les films, en fait.
Ouais, mais ça marche. Moi, je l'ai fait. Ouais.
Se faire larguer, ça fait du bien.
Ouais,
c'est vrai, ça fait énormément. Ça, c'était pour parler du fond du documentaire qui est très intéressant et très enrichissant, et que vous soyez parent, enfant, célibataire, peu importe, c'est juste votre santé, votre vie qui est en jeu, donc allez le voir. Moi, je voudrais savoir comment vous avez bossé, parce qu'il y a des vannes qui sont très Ken Cogentil dans la voix. C'est pas simplement je double avec un texte qui passe en bas de l'écran et vous cherchez pas être synchro d'ailleurs avec avec le texte de Damon, le réalisateur australien. Vous avez réécrit un texte.
Oui, ils m'ont fait confiance. Oui, oui. Alors par contre, tout ce qui est scientifique et tout ça, je respecte clairement. Vraiment le fond, le discours et tout. Mais après, dans la forme, il y a des blagues qui sont un peu australiennes, adaptées, enfin sur des produits australiens, des produits américains, qui marchent pas du tout en France. Donc je pense qu'ils sont venus me chercher aussi peut-être pour ça, pour la production est venue me chercher pour que je réadapte aussi avec un peu mon humour.
Et vous avez trouvé des blagues anglo-saxonnes à piquer ou pas?
Je les ai adaptées.
Est-ce qu'il y a on vous a demandé de le faire parce que vous étiez sujet à ce genre de questions, c'est-à-dire à bouffer sain, c'est parce que c'est une démarche un peu déontologique importante aussi. La preuve, c'est qu'on vous interroge pendant une heure et demie à ce micro en disant ça fait quoi le sucre? Donc ambassadeur maintenant.
J'ai toujours été dans une démarche depuis 5 ans, j'en parlais déjà dans mon spectacle, le fait que je me sois mis au sport et tout, à la diète et tout, ça a changé. Ouais, j'ai une sorte de déclic. Après, on peut toujours parler aux gens, dire il faut faire des régimes, il faut faire ça, la bonne santé c'est bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que être en bonne santé c'est bien, d'avoir son corps en pleine forme c'est bien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Y arriver.
Il faut surtout pas faire de régime.
Il faut un déclic. Il faut savoir. Avant tout. Il faut un déclic. Je pense que c'est un truc. Des régimes, c'est un parcours qui est tellement personnel que la méthode ne s'applique pas. Ouais. La même méthode s'applique. Il faut un déclic. Moi, j'ai eu un déclic. Ça fait partie de mon parcours. Voilà, ça m'a influencé. Du coup, maintenant, je prends soin de moi.
C'est quoi le déclic?
C'était la maladie de mon père, ouais, le fait de le voir. Je pense que le fait. Je me suis mis au sport.
À ce moment-là.
Grâce à ça, ouais, j'ai amélioré mon. Je me suis dit, Je vous en parle, si vous voulez,
une petite minute.
C'est en fait de voir mon père malade, de le voir complètement ravagé par la maladie mentalement. Je me dis, il y a peut-être un travail mental à faire aussi dans ma vie. Je me suis dit, on était en chimio, voilà, je vous explique sincèrement, on était en chimio. Mon père fait vraiment mentalement déjà extrêmement affecté. Et il y a un gars en face de nous. Donc, je sais pas si vous savez comment ça se passe, la chimio. La chimio, c'est un box. On met 4 gars, on les branche à une machine et ça dure 5 heures. Et donc, on attend 5 heures. Et il y a un gars qui a dit, en face de moi, en face de mon père, qui disait, c'est votre combienième cancer? Il demande ça à mon père. Et mon père dit, c'est mon premier. Enfin, je sais pas qu'on peut en avoir plusieurs. Et il lui dit, moi, c'est mon troisième. Et le mec dit, mais moi, je me laisse pas faire. Et mon père dit, ah bon, comment vous faites? Il dit, tous les matins, je me réveille, je vais faire des pompes, je marche. Je me bats, en juillet je vais peindre mon portail et puis en septembre il y a ma petite fille qui naît. Donc voilà, le mec avait un mental d'acier, c'est-à-dire se lever. Et je sais que quand on fait du sport il faut un conditionnement parce qu'il faut se dire, faut se bouger quoi, c'est compliqué et tout. Et ça a donné tellement de la force à mon père et ça m'a donné beaucoup de force aussi. Mais je savais que mon père était condamné à ce moment-là, mais moi j'ai vu ça comme un truc de, vous savez, comme une sorte de machine à remonter le temps. Voilà, mon père a 68 ans, moi j'en ai 30. Eh ben, je peux revenir en arrière. J'ai le pouvoir de revenir en arrière. Et à partir de maintenant, je vais capitaliser là-dessus. Et c'est ce déclic, en fait. Moi, j'ai ce déclic-là. Voilà, je souhaite pas aux gens le malheur, le bonheur que j'ai dû trouver dans le malheur pour comprendre ça et améliorer ma vie. Mais moi, ça a transformé ma vie. Et du coup, je pars là-dessus. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? L'avenir ne dira, je peux pas savoir. En tout cas, je crée un capital. Et j'essaie de toujours, même dans mes spectacles, donner des clés pour se sentir mieux. C'est comme ça que je...
Mais au-delà de dire que Kian a clairement raison, c'est vrai, c'est important de le dire, il faut un déclic, parce que évidemment, il faut manger sain, évidemment, il faut pas fumer, évidemment, il faut pas boire d'alcool, mais si on n'a pas le déclic, on va pas le faire.
Moi, je suis pas d'accord.
Pour une fois qu'on a un invité qui dit quelque chose
d'intéressant. Il a surtout l'air de rajeunir.
Ouais, ça, c'est
à chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression.
Là où je suis pas d'accord, c'est que boire un verre d'alcool ou boire un verre de vin ou avoir une vie sociale, moi, je ne vois aucun problème à ça. Non, je dis simplement, il faut savoir qu'en buvant 1, 2, 3, 4 verres d'alcool, ça représente tant de quantité de sucre, et pas s'embêter avec les calories, le j'ai droit, j'ai pas droit, mais simplement maîtriser. Ce qui me tue, moi, c'est que ces gens-là te balancent de la cam qui va te rendre dépendant de leurs produits, parce qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est gagner de l'argent, et ils s'en foutent totalement de ta santé. Ils veulent vendre plus.
Dans ma vie, sincèrement, je me fais des fast-food, je me fais des trucs, je me fais des plaisirs, quoi.
Ce qui est mignon, c'est que tout à l'heure, vous parliez de l'absence de communication avec votre papa. Je trouve que là, vous êtes en totale communication avec papa.
Ça a complètement rétabli le truc.
C'est ça qui est beau. Ça s'appelle Sugarland, le doc. Il sort au cinéma à partir de mercredi prochain. Il est grand temps de retrouver Tanguy Pastureau. Oui. Tanguy, le sport, c'est formidable, on n'arrête pas de le dire.
Oui, je regrette de pas en faire du tout, parce que sinon je serais gaulé comme vous, Nagui, qui avait quasiment l'âge de Philippe Gildas, mais est aussi fin que David Bowie en 77, quand il prenait l'ensemble de ses repas par le nez. Sans le sport, on en serait encore à se battre contre les Allemands, en se cachant derrière un prétexte quelconque, le retour du nazisme, ou le fait que l'été, ils portent des sandales de cuir ou la moustache, voire des sandales à moustache, pour ceux qui les ont achetées à un artisan qui s'est pas pris la tête à tanner le cuir de la chèvre. Mais le sport permet de canaliser nos pulsions guerrières. Si en 1789, ils avaient eu le foot, leur contentieux, ça se réglait sur le terrain. Le FC sans culotte contre le Sporting Club de Versailles. Bien des têtes seraient restées sur des corps. Et aujourd'hui, à la place de Macron, on aurait Louis 42 qui regarderait Stéphane Bern en bonnet à grelots en train de danser en criant « Fuck la République, vive le roi !» C'est important, le sport. Ça nous transcende. Nagui, quand vous observez votre femme de ménage, l'une des quatre qui chez vous fait la journée du lundi, en train de passer le balai, vous ne ressentez rien. Mais si vous regardez la même en train de faire ça sur la glace, ça s'appelle du curling et vous vous mettez à hurler « Allez Bayani, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les Philippines. Avec ce mental, tu peux les avoir tes papiers dans 30 ans. » Sans le sport, à Roland-Garros, on regarderait un court de tennis vide, alors que là on regarde des Français jouer, ce qui revient au même. Et le sport, ça rapproche. Les couples déjà. Qui n'a pas eu envie de faire l'amour à la suite d'une victoire de son équipe? Ce qui explique qu'à Metz, s'est vendu zéro capote depuis août. Il n'y a plus de natalité, ils sont prêts à prendre des migrants.
Ils viennent de gagner, arrête.
Et même les pays, puisque les deux Corées, celle du Sud et celle du Nord, qui appartient à Kim Jong-un, le despote qui se fait coiffer la touffe par des BTS coiffures redoublant leur première année, les deux vont s'unir pour les JO d'hiver. C'est historique. Ce que n'aurait pas réussi à faire Miss France avec la bouche en cœur et fixer sur le oui-oui une pancarte câlin gratuit, les sportifs l'ont fait. Peace and love. Lionel Chamoulot va se tailler avec Kathmandou pour tirer sur un énorme bang. Alors que le Nord et le Sud étaient au bord de la guerre il y a encore 16 minutes, hein, ils vont faire une seule et même équipe de hockey sur glace, moitié communiste, moitié capitaliste. C'est comme si chez nous, Pierre Gattaz disait à Poutou, je t'aime Philippe. Malgré notre différence de 300 millions d'euros, moi 300 millions, toi que dalle, on peut s'entendre et prendre Laurence Parisot et Alexis Corbière au tennis en double.
Alors, humainement, que va apporter la Corée du Sud? La Corée du Nord, que va-t-elle apporter? Oui.
En termes de moyens humains, et bien notamment 230 pom-pom girls. Hein, voilà, là-bas il y a un vivier, en Sologne il y a des sangliers, en Corée du Nord ce sont des pom-pom girls. Alors seul souci, elles ne connaissent qu'un slogan. Hein, je veux le K, je veux lui, je veux le M, ça fait Kim, Kim, on t'aime, féconde-nous, tu es notre soleil, nos chouchous, wouh ! Or là, elles vont devoir réciter des trucs sur la solidarité entre les peuples. Elles ont donc demandé des textes à Enrico Macias. Les Corées du Sud et du Nord s'unissent autour du sport. Dire que j'ai passé ma vie à me moquer des gens qui sortaient de chez eux en pantalon de jogging, mais je réalise aujourd'hui que niveau symbolique, c'est plus fort qu'un morceau du mur de Berlin. La prochaine fois que je me fais braquer par une Kaira en survêt, je lui donne directement mon téléphone en lui disant « Va en paix, brother !» Alors le sport, c'est ce qui permet de s'élever. George Weah, il a fait du foot. Oui. Hein, il était au PSG avant le Qatar. Hein, c'est-à-dire qu'à côté d'aujourd'hui, c'était un club de gueux. Et ben là, il se retrouve président du Liberia. C'est-à-dire que demain, Ribéry peut accéder à l'Élysée. L-I-Z-E, il l'écrit. Il met Candelro à la culture, ce qui fait que les bibliothèques seront divisées en deux parties. Le bac des albums des Schtroumpfs, le bac des Lucky Luke. Il met Cantona aux affaires étrangères. Celui-ci attaque le Luxembourg en disant « Putain, il y a qu'à péter, je vais tout faire péter, je suis un rebelle, c'est moi le chien. » Bon, bah, ça marchera pas. Ça marchera pas moins bien qu'avec les autres. D'autant qu'on a déjà Laura Flessel qui faisait de l'escrime et qui est ministre. C'est la ministre préférée des Français dans les sondages. Ceci étant dû au fait que personne connaît les autres. Vous commencez par faire 10 pompes chez vous devant la télé, vous finissez aux plus hautes fonctions. Des losers font l'ENA alors qu'avec un quart d'heure de pilates par jour, vous faites une plus belle carrière. Et en plus, vous finissez avec un boule à la Zaya qui vous permet de ranger vos clés si vous n'avez pas de sac banane. Même Didier Drogba, autre footballeur star, on lui demande en interview, envisagez-vous de devenir président de Côte d'Ivoire, hein, son pays, il répond, c'est véridique, pas pour l'instant. Hein, voilà. Il hésite entre ça, directeur de la Banque mondiale, ou incarnation physique de Dieu. Donc mon message est le suivant, faites du sport, et moi d'ailleurs, je quitte ce studio en courant.
Très bien, merci de l'occupation. La bande originale,
Nagui, sur France Inter. Très belle imitation de Canto.
Incroyable, il a des talent caché qui se dévoile de jour en jour. Vous êtes toujours sur scène, Kian, finalement. Il n'y a pas de moment où vous êtes off, j'ai l'impression, que ce soit pour l'ancien spectacle ou le nouveau. Là, vous rodez le nouveau, c'est
ça? Ouais, en fait, je vais dans les petites scènes parisiennes, je vais dans des petits endroits. Hier soir, j'étais au Sentier des Halles, après, je vais aller au Paname, je vais aller dans pas mal de scènes. Il y a le 33 Comédie, le One More. C'est des petits endroits qu'on connaît pas forcément quand on n'est pas un peu geek de l'humour, mais c'est des endroits où on est accueilli, on peut venir faire 5-10 minutes de texte. Voilà. Il y a même les soirées première fois de mon ami Yacine Bellous où les gens viennent présenter des textes pour la première fois. Donc c'est une soirée. Voilà, il y a des humoristes et de la musique, des morceaux qu'on vient écouter pour la première fois. C'est une manière de tester un peu ces blagues. Et donc c'est des soirées hyper bienveillantes, hyper cool pour se lancer justement dans des nouveaux défis.
Quand vous vous mettez à l'écriture, vous travaillez comment en fait? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des idées, parce que tout à l'heure on parlait avec Leïla de l'oreille parfaite que vous avez, votre diction, votre rythme d'écriture est très musical.
Ouais, j'incube beaucoup. Hein, par contre, je suis vraiment. Je suis pas le gars qui dit. Ouais, moi, je me lève le matin, j'écris pendant 6 heures, puis après, je vais me faire une balade. Non, je suis pas du tout ce mec-là. D'ailleurs, je me suis beaucoup. J'ai un bouquin sur les routines de tous les grands génies, ouais. Genre les Baudelaire, les trucs et tout. J'ai vu. Bah, je suis pas du tout comme ça. Vraiment, je suis pas du tout.
Vous êtes pas un grand génie, c'est
ça.
Bah,
voilà. Je suis une de mer. Voilà.
Je suis désolé. Autour de la table.
Ça fait vachement culpabiliser.
Non, écris pas, vous inquiétez pas.
Du coup, j'ai une idée qui me trotte en tête pendant 5-6 mois, puis à un moment donné, je l'écris parce que j'ai une deadline. Il me faut une deadline. Il me faut même pas un stylo pour écrire, il me faut une deadline. Il faut que je sois obligé de passer. Là, lundi 22 janvier, je serai à la nouvelle scène, à la soirée première fois de mon ami Yacine Bellous. Je présenterai un texte pour la première fois. Je l'ai pas encore écrit, mais ça fait 3 mois que j'y pense. Et à un moment donné, je vais m'y mettre. Et tous mes textes sont des V1 de toute façon.
Donc, vous avez besoin de vous mettre dans une pression, dans une.
Ouais, je suis un ancien mauvais élève. Et du coup, j'ai besoin de garder ça, le côté genre, bah, dimanche soir, demain c'est lundi, faut que je bosse, quoi.
Très bien.
Mais par contre, c'est un.
T'as compris, Tom, écoute un peu. Prends exemple un peu sur un professionnel.
Ouais, mais faut pas l'écrire après. C'est celle qu'on.
Ça, c'est clair.
Trop d'humoristes le font, ouais. Voici l'humeur et le rêve, peut-être, de Daniel Morin.
Ou le cauchemar.
Je sais pas.
Normalement,
quoi?
Vu les chiffres, on devrait bientôt tous crever. Sérieusement, toutes ces grippes, toutes ces gastro, c'est pas normal, c'est un signe. Moi, je vous le dis, c'est Armageddon. J'ai jamais vu de gens autant malades autour de moi. Et croyez-moi, ça fait peine à voir, surtout quand c'est moi. Alors, je vous le dis sans exagération, je suis au plus mal. Et qu'on arrête avec ces conneries, hein, de dire que les hommes sont des mauviettes face à la maladie, qui sont beaucoup moins résistants que les femmes. Ouais. Ok. Hier matin, après avoir pris ma température, quand j'ai constaté que j'avais 37,9 et que j'ai demandé qu'on fasse venir un prêtre, c'était peut-être un tantinet exagéré. Mais bon, on sait jamais, hein. On a 37,9 un matin, ça passe à 40 quelques heures plus tard. Qui dit que ça va pas monter jusqu'à 46 dans l'après-midi, qu'on va saigner des yeux dans la soirée, qu'on va vomir ses organes vitaux dans la nuit? On ne sait jamais. Vaut mieux appeler un prêtre. Pensez à avoir le 06 d'un prêtre. On ne sait jamais. Autre signe de fin du monde, les conseils qui sont donnés pour éviter de propager l'épidémie. On entend ça sur les ondes radio, on nous le montre à la télé, on nous dit qu'il faut éternuer dans sa manche. Non mais allô quoi, qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse que ça? Déjà que t'as pas la patate, faut en plus que tu te balades avec des kilos de morve au creux des bras. Mais tu fais quoi quand la veste est pleine? Tu sautes sur des rideaux, tu te précipites sur ton voisin, tu prends un chien qui passe. Oh puis merde, hein, entre nous, c'est quoi le seul truc fun quand on sort de chez soi alors qu'on est malade? Le seul truc fun, c'est de contaminer les autres. C'est pour ça que je suis là ce matin, les amis. Ouais, c'est comme ça, l'homme est taquin, ne nous voilons pas la face. Non mais moi, à ma période de gastro ou de grippe, je fais la bise à tout le monde, même et surtout aux gens que je déteste. Tenez, pas vieux, hein, ce matin dans le couloir. Hey, salut, ça va? Tiens, tu me fais la bise maintenant? Ah bah oui, pourquoi pas? Non, rien, je croyais juste que tu m'aimais pas. Mais tu rigoles, au contraire, je t'adore, Augustin! Alors moi, quand je suis à la maison, c'est un kiff, hein, un kiff de me rappeler qui j'ai croisé, puis étreint, puis embrassé, pour après imaginer mes victimes bactériennes ou virales en train d'avoir le nez qui commence à couler ou le ventre qui, doucement, gargouille avant la tempête. C'est un plaisir de salaud, c'est vrai, mais j'ai jamais dit le contraire. Je suis à mes heures perdues. Une ordure. Et en même temps, suis-je si mauvais que ça à vouloir que la fin arrive plus vite pour nous tous et que notre temps de souffrance soit diminué? Pas sûr. Alors méditez un peu avant de me jeter la pierre, bande de trouillards planqués derrière vos murailles de Kleenex, vos barrières de Doliprane et vos barricades de Specta. Hein? Et comme je suis magnanime, à vous tous qui passerez ces prochains jours sous la couette en sueur ou sur le trône en panique, je vous souhaite quand même un excellent week-end à tous. Voilà.
Samedi 17h, dimanche 17h, vous retrouvez Daniel Morin. Merci Daniel.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Ken Kojandi est notre invité, il est la voix, il porte Sugarland, vous en faites la promo. D'ailleurs, vous, dans cette émission, vous avez rencontré Damon Gaimo ou pas?
Pas encore, mais j'espère un jour le rencontrer. Ouais.
C'est un documentariste, parce que pour que l'on comprenne bien...
C'est un acteur australien. qui s'est prêté à ce jeu du documentaire. D'ailleurs, il travaille sur un prochain documentaire qui s'appelle 2040. Donc, je pense que ça sera sur le futur, je pense, dans le titre. Je me suis dit, tiens,
il vaut mieux voir. Ça sonne futuriste. Grosse erreur de titre, c'est ça. Grosse erreur de titre.
Parle du Moyen-Âge, c'est vraiment bizarre, mais bon. Ouais, c'est... bon, le gars est inspiré après. Ouais, j'ai confiance,
quoi. Ce qui vous a le plus choqué, le premier truc qui vous a choqué, est-ce que c'est comme Leïla et moi, c'est-à-dire de se dire, le sucre est partout, on s'en rend pas compte. Regardez, par exemple, le jus de fruits, même quand on le maîtrise soi-même, quand on le presse, on est obligé d'en mettre 2, 3, 4, alors que jamais on ne les mangerait.
Et alors,
je te raconte pas en pommes, c'est pire. Je pense qu'il faut beaucoup plus que de pommes pour faire un jus de pomme. Et donc, la quantité de sucre, elle, c'est finalement uniquement ce que l'on garde. Et c'est vrai que tous ces produits de presse agrumes nous poussent à consommer encore plus de sucre.
Ouais, moi, j'ai été élevé à ça. Le jus de fruits le matin, pressé, c'est bien de presser un jus d'orange et tout. C'est vrai que c'est bien parce que c'est bon et que ça ouvre l'appétit, ça fait du bien. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est ça, c'est le smoothie. Vraiment, j'ai pas touché un smoothie depuis un an. Je l'ai vu il y a un an. Je suis.
Mais un smoothie maison, ça marche.
Non, t'es obligé de mettre une quantité de fruits et de sucre.
Non, mais si tu mets une banane et du lait de soja, par exemple.
T'auras un dé à coudre, t'auras un tout.
Oui, non, mais voilà, c'est un truc raisonnable en fait. Encore une fois, faut pas dépasser ce que tu. Après, le faut prendre le smoothie comme une sorte de plaisir sucré. Faut pas le prendre comme un truc. Ouais, je fais du bien à mon corps parce que c'est pas ce que tu fais. En fait, le gars explique bien, il dit, si vous mangez une pomme, le simple fait de manger la pomme, il y a les fibres, il y a tout ça, vous en mangez une, vous pouvez en manger une deuxième maximum, mais vous n'en mangerez pas une troisième. Et quand on fait un smoothie, on en met 3, 4, mais on rajoute un citron, une fraise, ce que tu veux. Et en fait, on n'aspire que le sucre des fruits. On ne mange pas la fibre, on ne mange pas ça, et c'est super mauvais pour la santé.
Le simple fait de mâcher, voilà, te donne un sentiment de satiété qui est important. Le doc s'appelle Sugarland, c'est à partir de mercredi sur les écrans, et c'est vraiment d'abord drôle, instructif. Et vous allez apprendre des tonnes de trucs. On n'a pas eu le temps de tout évoquer de ce qu'il y avait dans ce doc porté par Kane Kojandi. On vous verra bientôt au cinéma d'ailleurs, mais je parle dans un film de pure fiction cette fois.
J'y travaille.
À votre film.
J'y travaille. Je sais pas à quoi annoncer. Non, mais là, je suis en train de travailler sur la captation de pulsions. Et on est en train d'écrire un truc avec Navo. Et j'espère que ça sortira bientôt cette année.
Daniel, des excuses à présenter.
Désolé déjà pour tous les cuisiniers de la cantoche de Radio France qui ont découvert, avec étonnement, faut le préciser, qu'il y avait plus meurtrier que salaud de sucre. Tu vas nous les déprimer. Désolé pour les fans du déglingo Kane Kojandi qui ont découvert à quel point il était devenu chiant, le mec. Ah ouais, trop petit tiramisu, c'est trop sucré. Il a arrêté le Kit Kat. Oh, quel relou. Désolé pour tous nos auditeurs qui, après avoir écouté la chronique scientifique de Marina Rollman, ont essayé de respirer comme les concombres de mer, à savoir par l'anus. Alors j'ai essayé, ça marche. Attention, attention, très fort trouble de l'haleine.
Lundi, en live, il y aura les deux frangines d'IBI. Et en interview, ça sera Charles Berling qui sera notre invité. Merci Kane,
merci
et bravo
vous
pour ce que vous faites. Et on a hâte de découvrir le nouveau spectacle de Kane Kojandi. En attendant, on découvrira Sugarland à partir de mercredi sur les écrans. Bon week-end et bonne matinée avec Philippe Bertrand et ses carnets de campagne tout de suite sur France Inter.